Bonjour à tous. Vous écoutez Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Aujourd'hui, pour la première émission de l'année, nous allons parler d'un sujet qui est cher au cœur du collectif, qui est la pierre sèche. Alors, pour s'immerger dans l'univers de la pierre sèche, je vais commencer par vous décrire les termes souvent employés par les experts de cette technique de construction. Donc, voici un petit glossaire en guise d'introduction. Aiguiller, citerne creusée dans la roche et voûtée de pierre pour recueillir les eaux de ruissellement. Brassier, ouvrier le plus souvent agricole qui travaillait avec ses bras, employé à la journée. Bancel ou faïs, terrasse ou gradin de culture soutenu par un mur en pierre sèche. Béal, petit canal d'irrigation ou d'apport d'eau. Capitelle, cabane construite à pierre sèche sans liant. Elle servait d'abri à son propriétaire, ses outils, ses récoltes dans les garrigues. Calade, rue pavée généralement en pente. Chemin clapier, chemin formé de deux murs en pierre sèche remplis de pierraille qui permettaient de se rendre d'une parcelle à une autre. Cairn, amas de pierres élevés pour marquer un passage ou un lieu, comme une sépulture. Clapas, long tas de pierres érigées à la suite de l'empierrement d'une terre en vue d'en faire un champ. Encorbellement, construction en saillie sur le plan d'un mur, portant en principe sur des corbeaux ou des consoles. Lapier ou lapiase, formation géologique de surface dans les roches calcaires créée par le ruissellement des eaux de pluie et forme un grand entablement rocheux. Lauze, pierre plate utilisée comme dalle ou tuile. Oppida, fortification de type celtique généralement aménagée en surplomb, protégée par des fossés et servant de refuge et de lieu de rencontre. Rachalon, ouvrier agricole. Maintenant que vous possédez le vocabulaire, parlons un peu de l'histoire de la pierre sèche. Tout d'abord, qu'est-ce que la pierre sèche ? Donc la pierre sèche, c'est une appellation qui désigne le matériau, la pierre, qui est utilisée sèche dans une maçonnerie, c'est-à-dire sans faire d'usage d'un liant comme de la boue ou du mortier de chaux. Donc la pierre ne sera pas mouillée. On parlera de construction ou maçonnerie à pierre sèche, d'une cabane en pierre sèche, d'une architecture de pierre sèche, d'un paysage de pierre sèche. Quand la pierre est utilisée directement sortie du sol, sans taille de forme ou de calibre, on la désigne sous le vocable de pierre écrue ou crue. La maçonnerie à pierre sèche peut être réalisée avec celle-ci, avec des pierres retouchées ou des pierres issues de carrière. En Garrigue, la très grande majorité des constructions sont à pierre écrue. La pierre sèche autrefois. La construction à pierre sèche, certains parlent de l'art de la pierre sèche, s'est réellement développé dans nos garrigues il y a 5000 ans. Même si déjà au Paléolithique, nos ancêtres ont pu aménager des abris sous roche en construisant des murets et au premier temps néolithique dressés menhirs, dolmens, cairns. Vers 2800 ans avant notre ère, l'agriculture et l'élevage vont se développer, dégradant le milieu pour préfigurer la garrigue actuelle. De petits groupes d'hommes vont s'implanter durablement et créer les premiers villages. Constitués d'une enceinte en pierre sèche, protégeant de grandes maisons d'habitation aux murs également en pierre sèche, couvertes d'un toit végétal, ils constituent les plus anciens témoins accomplis de l'art de la pierre sèche. Aux âges du bronze et du fer, de nombreux oppidas seront établis sur les hauteurs avec le même type d'habitat, protégés par d'imposants remparts et tours en pierre sèche. À l'époque gallo-romaine, au Moyen-Âge, l'habitat se déplacera dans les vallons et plaines sous forme de masses, de villages, de villes. La garrigue restera fortement exploitée pour fournir des pierres de carrière, de la chaux, du bois et du charbon de bois, pour la cueillette de plantes aromatiques, fruits, galles du chêne kermesse et bien sûr servir de pâture pour l'élevage. La pierre sèche contemporaine. Les nombreux vestiges de bâtis en pierre sèche visibles aujourd'hui, parsemant la garrigue, sont dus aux défrichements réalisés au XVIIIe et XIXe siècles. En effet, certains habitants des villes et villages vont s'approprier les terres communales les plus ingrates, rocheuses, délaissées, pour les mettre en culture et espérer en tirer quelques produits, surtout du vin. Ces terres ne vont pas les nourrir, totalement, mais pour ces ouvriers agricoles, du textile ou petits artisans, elles fourniront un complément alimentaire tel que le vin, l'huile d'olive, les fruits, le gibier, non négligeable. Mais pour cela, ils devront extirper les souches d'arbres et les racines, rompre le rocher, travaux très pénibles, nécessitant parfois l'usage du pic ou de la barre mine, pour épierrer le sol pour le rendre cultivable, quitte quelquefois à y rapporter de la terre. Toutes ces pierres, de grosseurs différentes, produites par l'action des gélifications, dégagées d'un sol argileux, pauvre en humus, doivent être stockées pour laisser le plus d'espace possible aux cultures. Le moyen le plus efficace sera la création de clapiers, clapas, bâtis de préférence sur le socle rocheux, affleurant. Au cours du temps, ils feront souvent l'objet d'un égraissage, par l'apport de nouvelles pierres résultant des différents travaux d'entretien des cultures de la parcelle. Suite à l'acquisition légale ou non d'une parcelle, il était important de marquer sa propriété par la construction d'un mur en pierre sèche autour de celle-ci. Outre cette fonction, ce mur pouvait servir à protéger les cultures de la dent des ovins et caprins. Protection d'autant plus efficace que ce mur était parfois couronné de pierres plates, loses, placées de champ. Quand la pierre était très abondante, deux voisins laissaient un espace de quelques mètres entre deux murs de leur enclos qu'ils remplissaient au fur et à mesure de la mise en culture avec les pierres gênantes de leur parcelle. D'un commun accord, cet espace était utilisé pour se déplacer et constituer un chemin clapier. Voici en quelques mots une rapide introduction à l'univers de la pierre sèche. Maintenant, nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter un interview d'un passionné de la pierre sèche, Bruno Fada. Bonjour.
Bonjour Alice.
Bonjour Bruno. Peux-tu te présenter s'il te plaît ?
Oui, mais je m'appelle Bruno Fada, je suis de la région d'Imoise et je suis un passionné de pierre sèche.
D'accord. Peux-tu nous dire ce qu'est la pierre sèche ?
Oui, alors la pierre sèche, pourquoi on dit pierre sèche ? C'est pas parce qu'elle manque d'eau, en fait, c'est parce que la construction à pierre sèche se fait sans l'apport de liant, de ciment, etc. Donc la pierre n'est pas mouillée, donc elle est sèche, tout simplement. Donc construction sans liant, c'est la définition.
D'accord, merci. Et pour toi, quand est-ce qu'est née cette passion pour la pierre sèche ? À quel moment ?
Oui, alors donc c'est une passion qui est un peu dans mes gènes quand même. J'ai toujours aimé les vieilles pierres, etc. et la photo. Et donc parallèlement, j'aimais bien photographier les vieilles pierres. Et puis il se trouve, mais quand je parle de vieilles pierres, il y a monuments, églises romanes, ponts anciens, etc. Et puis il se trouve qu'en 89, à côté de Nîmes, là où j'habite, il y a eu un grand incendie qui a mis en lumière, c'est le cas de le dire, un nombre incalculable de bâtis donc à pierre sèche et qui m'a donné envie de faire des photos pour une association locale, donc sur Marguerite, en fait c'est la commune de Marguerite, et donc j'ai fait des photos sur ce site, hein. Parallèlement l'association a recensé tous les bâtis en question. Et on a pu faire après une exposition pour intéresser le public à cette technique qui était complètement oubliée, perdue de vue.
Oui, parce qu'elle était oubliée parce que c'est une technique très ancienne.
Voilà, alors elle est très ancienne. Alors elle remonte en fait, si on veut faire, il faut remonter au moins à 4-5 000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'était du balbutiement. C'est une technique qui est très ancienne parce qu'elle ne nécessite aucun matériel finalement. Il faut juste avoir des pierres, prendre des pierres et puis les assembler. Donc c'est juste une question d'intelligence, d'adresse, d'astuce pour l'utilisateur. Donc c'est à l'époque néolithique, à l'âge à 2500 ans à peu près, dans les garrigues de Nîmes, du Gard et de l'Hérault. Donc c'est à peu près à cette époque-là qu'on voit les premières constructions vraiment bien élaborées, c'est-à-dire des fonds de cabane, des murs de cabane, donc des murs en pierre sèche, et des tombes, etc. Donc c'est à partir de cette époque-là qu'on trouve les premiers vestiges de ce type de construction, et qu'on va retrouver tout le long après de l'histoire, Donc, suite à cette époque néolithique, à l'âge du bronze, à l'âge du fer, on va continuer à construire donc, des oppidums, on appelle ça des oppidums, des petits villages perchés sur les collines, souvent enserrés de remparts donc, en pierre sèche. Et les Gaulois, ensuite, vont continuer donc, à créer ces villages, ces constructions de remparts en particulier, de défense, en pierre sèche. Les Romains vont inventer le mortier, mais vont aussi, dans certaines conditions, construire en pierre sèche. Certains remparts sont construits en pierre sèche. Et ensuite, il faudra attendre la fin de la guerre de Cent Ans, le début du XVIe siècle, pour qu'un apport de population importante à des garrigues relance ce type de construction. Mais là, c'est à ce moment-là, ce sont des gens plus pauvres, des gens des ouvriers, le plus souvent des ouvriers qui travaillaient dans les usines, les ateliers, dans les villages, les villes, qui, défrichant la garrigue, donc, ont retrouvé cette technique. L'âge d'or, cette technique donc, de construction, va être le 18e et le 19e siècle. C'est là qu'on va avoir le plus de construction, qui sont souvent encore en bon état. Ce type d'occupation de la garrigue va connaître un arrêt brutal à la Première Guerre mondiale, évidemment, pas manque de main-d'œuvre. Donc là, les terres les plus éloignées vont être abandonnées, donc ces constructions vont être abandonnées, vont disparaître dans les fourrés. Et le deuxième coup de grâce sera donné à la Deuxième Guerre mondiale, où là, il y a un exode rural très important, et donc on va complètement oublier cette technique, ça ne sera plus utilisé. Et on va la retrouver, donc, si on finit l'histoire, donc on va revenir à l'histoire contemporaine, c'est-à-dire que fin des années 80 et début des années 90, il va y avoir un certain engouement sur même très important. On va retrouver donc, ces constructions, et là, c'est une autre histoire.
D'accord.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes. Sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ah!
Thank you. Appreciate that. Yeah.
Tu nous as pas expliqué exactement comment étaient apparues ces constructions, par qui, quels sont les critères en fait qu'il faut avoir en place pour qu'il y ait des constructions. Est-ce qu'on peut trouver des constructions n'importe où dans la nature, à certaines zones, sur certaines zones, voilà.
Oui, alors dans les galeries, on ne trouve pas des constructions de pierre sèche partout. Il faut plusieurs conditions pour la pierre sèche. Il faut que déjà que la pierre soit, puisse être travaillée. C'est-à-dire, il faut qu'elle ait été, soit délitée en blocs pas trop gros et en dallettes éventuellement. C'est l'idéal. Ensuite, il faut des hommes pour faire ces constructions, parce que ça prend de la main-d'œuvre. Et il faut des terres libres où ces défricheurs, là je suis dans l'époque plus moderne, les défricheurs pouvaient donc s'accaparer un petit coin de garrigue et après avoir coupé la végétation, des rochers, enlever des rochers et enlever des pierres et pierrer. Et là, avec ces pierres qui étaient sorties du sol, ils pouvaient donc construire des murs, des terrasses, des abris, éventuellement des capitelles ou des cabanes en pierre sèche.
D'accord. Donc, les endroits où on peut encore trouver ces vestiges, c'est forcément des endroits qui ont une histoire à raconter. Il y a forcément des choses qui se sont passées autour de cet endroit.
Exactement. De toute façon, la garrigue, c'est une histoire avec l'homme. L'homme, c'est l'homme qui a fait la garrigue, et la garrigue sans l'homme, c'est plus la garrigue. Donc, automatiquement, ces hommes qui étaient là, ils ont défriché, ils ont travaillé, ils ont planté de la vigne, des oliviers. D'autres ont fait du charbon, d'autres ont fait de l'huile de cadre, d'autres ont fait de la chaux. Donc il y a un tas de gens qui vivaient de la garrigue, et qui vivaient soit en complément, soit pour vraiment en vivre, comme les charbonniers par exemple. Donc c'était pas facile, mais enfin, ils arrivaient à s'en sortir quand même. Et là, donc, c'est ce que je disais jusqu'à l'époque de la guerre de 14, où après, il manquait de main d'œuvre parce que bon, c'était pas, on a changé un peu d'époque. Là. Voilà. Et donc, derrière tous ces sites, il y a des histoires d'hommes, il y a des histoires de gens valeureux, astucieux, qui ont su mettre à profit un terrain qui avait été délaissé, parce que bon, il était souvent éloigné des villes ou des villages, donc il était délaissé, il n'était pas très riche en terre, donc il était disponible, et pour des gens courageux, ils arrivaient à faire repousser quelque chose, quoi. Quelques vignes, quelques ceps, quelques oliviers principalement, ce qui pousse le mieux quand il n'y a pas d'eau.
D'accord. Et donc, on en vient à notre histoire contemporaine. En fait, on voit qu'il y a de plus en plus d'engouement pour ces techniques, ce patrimoine. Comment ça se fait et comment les gens qui sont amateurs de pierre sèche, mais pas encore experts, peuvent justement découvrir ces techniques, cette histoire, etc. Est-ce qu'il y a des outils qui sont mis en place pour les gens qui s'intéressent aux pierres sèches ?
Oui, bien sûr. Donc, c'est l'engouement public, on va dire, vraiment public, a démarré dans les années 90, au début des années 90. Pourquoi cet engouement ? Parce que bon, il y a eu un peu partout des gens qui ont des passionnés aussi, qui ont essayé de retrouver la technique, de d'abord débroussailler les sites pour retrouver exactement le nombre de bâtis, recenser le nombre de bâtis, etc. Et puis commencer un peu à les restaurer, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien qui fait plus mal au cœur que le capitaine à moitié déboulé. Ça fait mal au cœur, donc on ne peut pas supporter ça. Donc il faut bien le remonter, en respectant le plus possible, évidemment, le style du coin. Et donc ça avait été étudié un peu, entre les deux guerres, par quelques érudits, donc des scientifiques, qui avaient quand même fait un petit travail assez intéressant dans les archives, etc. Donc il y avait déjà un peu, mais c'était resté uniquement dans la sphère scientifique. Bon, c'était pas, le public n'était pas forcément au courant. Et c'est donc à ce moment-là, donc il y a 25 ans, maintenant 30 ans, que donc de nombreuses associations se sont créées Parce que chacun dit, mais moi aussi j'ai des capitaux, bon, je veux les mettre en valeur, il n'y a pas de raison, il n'y a pas qu'à dire, mais qu'il y en a, il y a, etc. Bon, c'est très bien, en effet, il y en a partout, hein, il y en a dans tout le Gard, il y en a dans l'Hérault, il y en a pas partout, mais il y en a beaucoup de sites dispersés sur tous les Garrigues. Là, je ne parle que des Garrigues, hein, on parle au collectif des Garrigues, on parle que des Garrigues en principe. Hein. Sinon, après, on a... Donc, sur les Garrigues gardoises et rotaises, on en est à, je crois que j'avais recensé, pour le faire, pour la, au niveau de l'Atlas, on avait recensé, je crois, les 4400 capitels hein, sur les communes. Bon, on n'a pas tout. On a sûrement quelques-unes qui se passent à travers, donc oui, ça fait un nombre important de constructions. On a compté les capitelles, bon, c'est une, quand on parle de capitelles, il n'y a pas que la capitelle, il y a toujours avec, il y a des murs, il y a un tas d'éléments aussi qui vont avec. La capitelle, c'est un peu le symbole, la cabane en pierre sèche, pour les gens qui ne sont pas de Dîmes, il vaut mieux dire cabane en pierre sèche, c'est mieux perçu, donc cabane en pierre sèche. Oui, parce que capitelle, entre parenthèses, capitelle, c'est un nom spécifiquement dîmois, qui est attesté depuis le XVIIe siècle. On a trouvé ça dans des actes notariés, donc qui parlaient de capitelle, une commande d'un artisan qui voulait construire une capitelle, qui demandait à deux personnes de lui construire une capitelle. Donc c'est bien un terme dîmois, hein, c'est dîmois dans la région de Dîmes, parce que il y a que dans la région de Dîmes, on ne sait pas combien il y en a, parce qu'il y a tellement qui ont disparu, mais il a eu certainement 3000, peut-être 3 000, 4 000, enfin, aujourd'hui il a autour de 2000, on va dire à peu près, c'est une estimation. Donc, ce terme de capitelle, comme il sonne bien, les gens ont trouvé qu'il sonnait bien, il est agréable à l'oreille, donc il a été adopté par beaucoup de gens, donc dans le Gard, dans l'Hérault, dans l'Aude, etc., même en Provence, parce que le nom c'était cabane en pierre sèche, donc cabane en pierre sèche, c'est un peu long à dire, il faut bien dire en pierre sèche, parce que le cabane c'est pas forcément en pierre sèche. Donc pour ça que donc capitelle a été adopté, parce que ça quand on dit capitelle de suite ça parle à tout le monde et tout le monde sait que c'est une construction à pierre sèche, voilà, qui ressemble un peu arrondie avec bon, etc. Voilà.
D'accord. Donc tu disais que pour mettre à disposition au public ce savoir, ce patrimoine, ces techniques, donc il y a eu le travail fait avec le collectif pour l'Atlas des Garrigues. Ensuite, il y a eu aussi des rendez-vous des Garrigues. Je sais aussi qu'il y a eu des chantiers autour des pierres sèches. Et là, il y a un nouveau projet qui est dans les tuyaux au collectif. Et il s'agit de l'édition d'un guide de randonnée autour de ces sites de pierres sèches. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors justement, alors donc ce guide qui est un projet là, qu'on est en train de réaliser, en fait, on a pensé que ce serait bien de faire découvrir donc, à ceux qui croient connaître certains sites qui forcément... leur apprendra certainement quelque chose, car tous les sites sont différents, tous ont une histoire un peu différente, ou des particularités intéressantes. Et aussi, c'est le moyen, cette envie de mettre un peu en lumière, donc déjà le travail de nos anciens, ça remontait au néolithique, mais au moins au 19e siècle, oui, qui ont donc fait ces paysages magnifiques de pierre sèche, leur rendent un petit hommage, parce qu'ils étaient souvent, ils ont souvent été négligés et non reconnus. Et aussi, rendre un peu hommage aussi à tous les bénévoles, à passionnés qui, depuis 30 ans, mettent en valeur donc leur petit site chez eux, dans la commune. Alors, il n'y a pas que des passionnés d'associations, il y a aussi des collectivités qui ont pris le relais, hein, soit des communes, soit des collectivités de communes, hein, donc il n'y a pas que des associations. Hein. Le LAN a été donné par certaines associations, mais beaucoup de communes donc, ont embrayé, on va dire, sur le sujet, et c'est très bien, parce que bon, il faut quand même des moyens, le site doit être entretenu, etc., donc c'est parfait, et chacun retrouve son... tout le monde est content, tout le monde retrouve son bonheur, donc c'est parfait.
D'accord. Donc, il va y avoir combien de sites, et sur quel territoire, et est-ce que ça sera accessible à tout le monde, ou est-ce que ça sera pour les experts, voilà.
Alors, surtout pas pour les experts. Mais les experts aussi, ils auront peut-être pour apprendre quelque chose, peut-être, naturellement, mais surtout, donc, ces sites, c'est surtout pour le public, y compris le public, les touristes, qui sont pas forcément au courant, et même des gens qui sont venus récemment du département du Nord, par exemple, de la France, et qui ne sont pas forcément au courant de ce qu'est une garrigue, et qui pensent souvent, d'ailleurs, à tort, que cette garrigue, c'est un endroit qui n'est pas très agréable, qui pique, on ne peut pas passer, c'est broussailleux, il y a des pierres, on marche mal, etc. Donc, c'est un peu la vue qu'on a, donc il faut tordre le cou à toutes ces idées. Alors, ce guide, eh bien, je vais mettre donc un peu en réseau tous ces sites. Alors on s'est limité, donc on aurait pu, bon, on a recensé grosso modo, quand on a fait la classe, une cinquantaine d'endroits potentiels. Seulement on avait quelques conditions, c'est-à-dire qu'il fallait envoyer du public. Donc pour envoyer du public, il faut des sentiers balisés, et balisés dans les règles de l'art, c'est-à-dire en ayant prévenu les propriétaires des terrains quand il y a des terrains privés, parce que là aussi c'est possible qu'on ait des terrains privés, des terrains communaux. Donc il faut l'accord de tout le monde, il faut que les sentiers soient balisés. Alors les comités de communes ont fait un très bon travail avec le conseil général du Gard et de l'Hérault pour baliser des sentiers de, on appelle quoi, des paires, de petites randonnées, contrairement aux sentiers de GR. Donc ces sentiers sont bien adaptés. Alors quand il fallait que ces sentiers existent, ou un sentier équivalent mais qui soit déjà existant. Ensuite, il fallait une association donc, pour avoir un peu l'histoire, qui nous explique un peu pourquoi ce site s'est mis en lumière, a été mis en lumière, quelle est un peu son histoire, etc. Ses particularités. Donc ça, c'était la deuxième condition. Voilà, il fallait donc ces conditions-là, une association et puis un sentier qui existait. Et puis éventuellement, il y a des constructions à pierre sèche, évidemment. Mais là, on était à l'esprit assez large, on n'a pas de problème. Donc tout ça qu'on a eu, donc on a recensé, donc de ces 50 sites, on est retombé à une vingtaine, qui étaient potentiellement viables. Donc on a, bien sûr, donc, le collectif du Garrigue, travaillant sur le Gard et l'Hérault, sur les Garrigues du Gard et de l'Hérault, on a tenu évidemment ce qui est des sites dans l'Hérault et des sites dans le Gard. On ne peut pas en avoir le même nombre exactement, parce que bon, ça c'est la géographie, l'histoire qui fait que bon, on ne peut pas avoir le même nombre dans chaque département, on ne va pas faire de jaloux, mais bon. Donc dans l'Hérault, on aura 5 ou 6 et on aura 14 ou 15 dans le Gard.
D'accord.
Et certains étaient vraiment à la limite Gard-Hérault, du bord de chaque côté de Vidourle, donc là on peut dire que ceux-là, ils sont dit gardois en hérotés. Alors, donc ces sites, ça sera une petite balade, donc on va décrire une petite carte avec une balade qui souvent est balisée, qui existe. En plus, souvent ces balades, comme ces sites sont aménagés, donc il y a souvent pas tous, mais certains ont des panneaux explicatifs, donc ça c'est parfait. D'autres ont des sentiers parallèles, soit plus importants qui tournent autour des capitales, ou qui sont à partir des capitales, on peut faire des randonnées plus longues. D'autres ont des sentiers botaniques, où on peut apprendre un peu la richesse, on apprécie la richesse de la flore de la garrigue. Voilà. Donc, les balades seront assez courtes pour que les enfants puissent venir. Alors, c'est un topo guide, on ne va pas parler de topo guide. Il y aura des balades, on ne peut pas dire topo guide, mais il y aura des balades quand même où on peut aller voir ces sites. En règle générale, en deux heures et demie, une balade tranquille. Et dans le guide, donc, il y aura les explications sur le site, son histoire, qui l'a mis en valeur, pourquoi et comment il vit. C'est-à-dire, vous aurez ensuite, il y a beaucoup de sites où il y a des animations, des découvertes, des animations très originales. Alors, je ne vais pas citer personne pour faire des loups, mais il y a des fois des animations très 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 intéressantes. Donc, originales, oui, on peut le dire. Donc, voilà, chaque site mérite d'être découvert. Donc, il y en a une vingtaine sur le Gard et l'Hérault. À mon avis, c'est à la portée de facile, on peut le faire facilement.
D'accord. Et donc, ce guide, normalement, sera édité fin du printemps, début d'été.
Mais normalement, oui, c'est le planning qui est prévu. Donc, il doit sortir, normalement, il devrait sortir au mois de mai-juin. Donc, on a bien avancé. Donc, maintenant, il faut finaliser. Bon, c'est quand même assez lourd. Hein. Il faut. Voilà.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Bruno.
Avec plaisir, Alice.
Au revoir.
Au revoir.
Garrigo 3000, un pantalon de vivre.
Mesdames et messieurs, cette année encore, nous voilà réunis pour célébrer cet instrument que vous connaissez si bien, le violon. Bravo, bravo, bravo à tous encore de continuer et toujours de continuer. Toujours de continuer à jouer cet instrument difficile. Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer cette 12e édition de Violonade? 5, 4, 3, 2, 1, 0. La Violonade est ouverte, mesdames et messieurs.
Le férial, c'est l'enchaînement calendaire des fêtes dans un lieu donné. Et donc le férial rythme un peu notre quotidien, notre année et du coup notre vie.
Vous, parmi l'auditoire, vous avez chacun proprement votre férial, si j'ai bien compris. Chaque personne peut avoir son propre férial, il n'est pas forcément géographique. Et voilà, donc on se voit vieillir grâce à la fête des violons populaires.
Ici Francis, je voulais préciser que si la fête de la cerise est devenue un échec, c'est parce que la dernière fois que des gens ont voulu ramasser les cerises avec les fourches de sauve, ça a été une catastrophe. Alors merci.
On sauve, protus douce patrie, c'est l'ose et fin de ta famille, taillement d'amour, taillement des corps. Des cantarines jusqu'à à la mort.
Je t'invite à boire un coup.
Te convidi à beurre une cop.
Bon, alors, c'est un chant qui vient de Normandie. Bon, là-bas, la fête, on l'a fait avec de l'agneau. Donc, ça chauffe un peu plus vite. C'est à répondre, donc vous pouvez répondre. C'est en français. C'est dans la jolie Rochelle, vide dans la bouteille.
C'est dans la Rochelle, la bouteille.
On délira la tralala, vide dans donc un plan vers l'égal. On délira tralala, vide dans la bouteille. On délira tralala, vide dans la bouteille. On délira tralala, vide dans la bouteille.
Avant la fête, il y avait quand même un orchestre. Maintenant, souvent, c'est des DJ.
Vous êtes l'objet d'un collectage. Qu'est-ce que ça vous fait?
Eh ben, ça fait tout drôle, hein, parce que d'habitude c'est les autres, mais là c'est bon.
Ouais, là c'est... Ouais, on sent qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, quoi.
Bon, de toute façon, les fêtes maintenant, de plus en plus, ça se termine, les fêtes des ivrognes, ça se termine en bagarre.
Chin
Santat.
Je pense que comme dans tout village, la population, elle n'est pas uniforme, elle est...
Radio Garriga 3000 est donc là pour faire le lien entre toutes ces populations, qui parfois ne se mélange pas dans certaines fêtes. Hein. Chacun a un peu sa fête.
Il y a toujours cette espèce de scission entre les néos, les cévenols. Voilà. Au-delà des rencontres chantées, on est un groupe très soudé, très uni.
Donc il faut persévérer.
Oui.
10 ans, c'est juste l'âge de maturité,
ouais,
pour une fête.
Ah,
hein.
Carrément.
On,
oui,
on encourage les violons populaires à continuer.
Ouais. Je peux parler de la vieille morte. En fait, la vieille morte, c'est le nom de la montagne qui nous tient. Et tous les lieux qui nous entourent sont imprégnés de cette légende. Donc la vieille morte, c'est notre vieille à nous. Franchement, la vieille a 10 ans. Et la vieille se porte bien, franchement.
Donc en fait, vous interprétez des morceaux que vous avez vous-même collectés.
Oui. Qu'est-ce qui m'a poussé à ça? Je sais pas. J'avais envie de rencontrer ces gens-là, cette civilisation-là qui n'existe plus en fait. Voilà, la vieille civilisation rurale. Partager des choses avec eux. Partager, mais pas seulement la musique, quoi. Je veux dire, des moments de vie, du travail, des soirées, de la convivialité. La convivialité, elle va de soi. C'est-à-dire qu'on commence par des choses sérieuses, des nouvelles, des informations, et puis inévitablement on boit un canon au bout d'un moment, et puis. Et bien avec un verre ou deux, la conversation se délie, et puis...
Et comme le disait le grand fabuliste, hein, Florian, né à Sauve, pour vivre heureux, vivons cachés.
La Garrigue, une lioque des Vioret.
Nous venons d'écouter un extrait de Radio Garriga 3000, qui est une création artistique sonore et sociale, initiée par le groupe Patrimoine et Arts Vivants du collectif des Garrigues. Maintenant, revenons au sujet de la pierre sèche. Donc, tout au long de cette émission, nous avons découvert la pierre sèche, son vocable, son histoire, ses utilisations, son engouement, mais nous n'avons pas encore abordé les utilisations actuelles et futures. En effet, le mouvement de restauration du petit patrimoine engagé au cours du dernier quart du XXe siècle par quelques passionnés refusant de voir disparaître cette technique ancestrale se poursuit aujourd'hui partout dans le monde, en France, en Europe, en Asie, en Amérique. Depuis une vingtaine d'années, il s'accompagne d'une véritable renaissance de la profession de bâtisseur en pierre sèche. En France, des associations, des parcs naturels, des chambres des métiers, des écoles d'ingénieurs ont su sensibiliser, mobiliser, rassembler, travailler de concert dans une coopération exemplaire qui a permis de donner ses lettres de noblesse au métier de bâtisseur en pierre sèche, en répondant à tous les standards de la construction contemporaine. Formation professionnelle, garantie assurantielle, calcul de résistance, règles de dimensionnement. La pierre sèche coche aujourd'hui toutes les cases de la construction moderne. Ce travail exemplaire a notamment permis de créer deux formations professionnelles nationales, le CQP N2, ouvrier qualifié en pierre sèche, et le CQP N3, compagnon professionnel en pierre sèche, qui forment chaque année de nouveaux professionnels capables de bâtir dans les règles de l'art, souvent regroupés en associations professionnelles nationales ou régionales, comme la Fédération française des professionnels de la pierre sèche en Avignon, Murailler Languedocien de l'Hérault, Confrérie des bâtisseurs pierre sèche dans le Gard, Artisans bâtisseurs en pierre sèche en Lozère. Loin d'être cantonnés à la restauration du petit patrimoine agricole, ces professionnels interviennent également sur des constructions neuves. Soutènement routier, aménagement paysager, fondation d'habitation, land art, marketing territorial. Comme toujours, depuis la nuit des temps, la pierre sèche s'adapte à son époque et se découvre aujourd'hui de nouvelles expressions grâce à ses qualités exceptionnelles. En effet, outre ses qualités esthétiques et paysagères, la pierre sèche présente une résistance mécanique attestée par les travaux de recherche, mais aussi par des dizaines de milliers d'ouvrages qui structurent le paysage depuis des siècles. Elle permet en outre une prévention efficace des risques de ruissellement et d'érosion en ralentissant les écoulements d'eau de pluie et en limitant leur pouvoir destructeur. Elle offre encore un bilan carbone incomparable et une simplicité absolue de recyclage en fin de vie, tout en constituant un biotope de choix pour de nombreuses espèces végétales ou animales, ainsi favorisant la biodiversité. C'est enfin une source d'emploi non délocalisable, permettant de faire vivre des artisans du territoire, mais également des personnes rencontrant des difficultés sociales à travers les chantiers d'insertion par l'activité économique, contribuant au développement économique et social du territoire. Pour tous ces critères, et par les nombreux intérêts patrimoniaux, géologiques, botaniques, faunistiques, les sites de pierre sèche sont de réels musées à ciel ouvert, grâce auxquels le futur guide de randonnée, Pierre Sèche, vous donnera accès. Pour en savoir plus sur la pierre sèche, mais également sur le projet mené par le collectif des Garrigues, n'hésitez pas à venir à rechercher plus d'informations sur le site www.wikigarrigues.info. Je vous remercie d'avoir écouté Escapade en Garrigue. J'espère vous avoir donné envie de parcourir les Garrigues à la recherche de ces constructions en pierre sèche et avoir aiguisé votre curiosité sur ce sujet. Au revoir et au mois prochain.
Centuries pass by without a sound. Just a mile outside of town, down river bound, where the limited sky fell down. The blood against your will is flowed into your just a mile outside of town. What's the use of being found? You can lose yourself in some good ground. In the weeds hiding down river right next door, there's no flame around the pitch, just a view through my back door. Just